Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, votre émission qui met en avant les entrepreneurs talentueux qui se battent pour maintenir leur production en France sur leur territoire. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir des Français qui innovent pour cette fois-ci faire face aux problèmes environnementaux et en particulier le plastique. La pollution par les plastiques qui font partie de notre quotidien et qui finissent dans l'ensemble des océans. Et tout à l'heure, je vous emmènerai en Normandie découvrir une machine made in Normandie qui permet de recycler les bouteilles en plastique des consommateurs. Mais tout de suite, faisons le point sur ces déchets plastiques qui nous envahissent.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes avec Henri Bourgeois-Costa de Océan sans plastique. Bonjour Henri.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez déjà nous rappeler dans un premier temps ce qu'est Océan sans plastique ?
Alors Océan sans plastique, c'est une association loi 1900, une ONG qui travaille sur la question de la réduction des plastiques, alors pas au niveau du terrain, pas en faisant des ramassages, mais au niveau des solutions amont. Une des premières ONG à avoir travaillé là-dessus, et aujourd'hui, une grande fondation a pris le relais d'une partie de ses actions, qui est la fondation Tara Océan, également sur l'économie circulaire.
Alors, est-ce que vous pouvez peut-être déjà, pour les auditeurs de Sud Radio, nous rappeler en chiffres la quantité de plastique absorbée chaque année par les océans et
oui.
Ses conséquences ?
Alors, on parle aujourd'hui de 8 à 10 millions de tonnes par an qui finissent dans la mer et dans les océans. Ces 8 à 10 millions, ils sont issus des 35 à 50 millions qui arrivent dans la nature en général. Nature en général, on parle de l'air, des sols et tous les milieux. Et donc, on arrive à 8 à 10 millions qui aboutissent en mer et dans les océans. Ça, c'est chaque année à l'échelle de la planète. Et donc, il faut bien avoir en tête que l'essentiel de cette pollution, ce ne sont pas des gros déchets. On entend souvent parler de continents.
C'est tous ces petits objets de notre quotidien qu'on a chez nous, au bureau,
oui.
À la maison, partout.
Et voilà, exactement. Et puis, une fois qu'ils arrivent en mer, ils sont déjà très fragmentés. Ça, c'est une vraie réalité importante à avoir en tête. Sont pour l'essentiel, 85% du volume, des petits morceaux de moins de 5 mm. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, il n'y a pas de solution de nettoyage. C'est une vue de l'esprit, malheureusement. Ouais. On aimerait tous beaucoup que ça soit vrai, on en rêve. Mais malheureusement, c'est impossible. Ça reviendrait à nettoyer la mer à la petite cuillère. Quoi.
Ouais. Et les conséquences ? C'est la mort de millions d'oiseaux, de mammifères marins ?
Exactement. Alors, on cite des chiffres qui sont toujours difficiles à préciser, mais on parle d'environ 200 000 mammifères marins par an et 2 millions d'oiseaux. Donc, c'est vraiment un chiffre qui est énorme. Ça, c'est la première conséquence sur la biodiversité. Donc, on imagine bien quand on retire autant d'animaux d'un écosystème, ça a déjà des impacts en soi. Mais c'est malheureusement pas la seule conséquence de la présence de ces plastiques. Alors, sur la biodiversité, on va trouver d'autres conséquences assez évidentes, c'est qu'à force de mettre beaucoup de petits morceaux de plastique, en fait, les animaux se nourrissent plus de plastique que de vrais aliments, que d'algues ou que de micro-organismes.
Oui.
Et évidemment, je vous laisse imaginer qu'on grossit pas beaucoup et qu'on ne grandit pas beaucoup en mangeant du plastique. Hein. C'est pas ce qu'il y a de mieux, évidemment. Donc
bien
voilà,
évidemment.
Ça déséquilibre fortement la chaîne alimentaire et on se retrouve avec des organismes qui diminuent en quantité et en qualité également.
Vous parlez de chaîne alimentaire, c'est aussi un danger pour nous également. Finalement, on finit par les ingérer, nous, ces micro-éléments.
Oui, tout à fait. Vous avez complètement raison. On oublie souvent qu'en fait, l'homme n'est qu'une espèce parmi plein d'autres dans l'écosystème. on s'en est un petit peu éloigné de la nature brute, mais on a encore plein de fils qui nous rattachent à la nature et on ne peut pas s'en passer. Et notamment, notre alimentation, elle dépend complètement de la qualité de nos écosystèmes. Et donc, aujourd'hui, tous les scientifiques qui travaillent sur les poissons, sur les mollusques, en fait, trouvent des quantités relativement importantes de microplastiques dans ces fruits de la mer.
Donc ça, c'est la deuxième... Dites-moi, pardon.
C'est la deuxième conséquence sur la biodiversité. Et puis après, on va en trouver d'autres qui sont un petit peu plus complexes, qui sont par exemple que cette grande quantité de plastique va servir de support à toute une série de petits organismes. Alors, ça peut être vraiment des tout petits organismes du type bactéries, virus, ça peut être des organismes légèrement un petit peu plus grands, des micro-algues, des choses comme ça. Et en fait, c'est des organismes qui sont déjà en mer, mais en fait, la présence des plastiques peut en favoriser certains au détriment d'autres.
Ouais.
Et donc, on va complètement,
encore
complètement déséquilibré. Et puis, pour finir, la dernière sur la biodiversité, qui n'est pas des moindres, c'est qu'en fait, ces plastiques-là, alors certains ont une toxicité propre. Si on parle, par exemple, ce qu'on appelle les PFC, les perfluorocarbonés, sont des polymères également, sont aussi des plastiques, ou les polystyrènes, sont des plastiques qui sont vraiment toxiques en eux-mêmes. Et puis, il y en a d'autres qui le sont moins en eux-mêmes, mais qui vont agréger sur eux toute une série de polluants qui vont venir se coller. au plastique parce que, en fait, les plastiques ont certaines propriétés physiques, chimiques, et qui font qu'on va retrouver des métaux lourds, on va retrouver des huiles minérales, on va retrouver comme ça toutes sortes de choses. Mais en fait, les animaux, en ingérant ces petits morceaux de plastique, vont non seulement ne pas grandir, mais ils vont en plus s'intoxiquer, intoxiquer la chaîne alimentaire avec ces polluants.
Vous dites que ça n'est pas une fatalité. Alors comment faire? Quelles sont les solutions possibles, innovantes?
Alors ce n'est effectivement pas une fatalité, parce que en fait, c'est déjà une réalité qui n'est pas si ancienne que ça. On a vécu sans autant de plastique, et donc on peut tout à fait imaginer qu'on construise une société qui n'en a pas... On n'a pas forcément besoin aussi frénétiquement, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre mot que ce qui est le cas aujourd'hui. Alors évidemment, le premier enjeu, c'est de s'intéresser à ce qui représente le plus gros volume de ces plastiques, et le plus gros volume, c'est nos emballages. On estime à 50-60% de ce qui se retrouve dans la nature serait issu du monde de l'emballage. Donc on peut déjà s'attaquer à ça. Il faut savoir qu'on a des plastiques qui parfois ont une durée d'usage de quelques minutes. Dans quelque chose de fou, parce que le plastique, ce sont les plastiques, on devrait dire, c'est plein de matériaux différents, mais les plastiques, ce sont des matériaux qui ont avant tout comme caractéristique d'être très durables, d'être très solides, d'être très efficaces, d'être très performants, et en fait, on les utilise pour en faire quelque chose de très très éphémère. Donc, évidemment que ça ne va pas. Donc, on peut se poser la question de comment est-ce qu'on va, demain, en gros, réinventer nos systèmes pour ne pas avoir besoin de ces emballages permanents. Ça peut dire, on a déjà des solutions. C'est par exemple le vrac. Ça, c'est une très bonne solution. Acheter nos produits alimentaires en vrac et non pas suremballés, c'est une...
Venir avec ses contenants en magasin.
Voilà, exactement. Venir avec ses contenants, aller plutôt favoriser les commerces qui proposent ce type de vente. Ils le sont de plus en plus nombreux. Ça va du grand supermarché jusqu'à la petite épicerie aujourd'hui. Mais tous ne font pas le même effort, et effectivement, on peut aller privilégier plutôt d'aller faire ses courses de cette façon-là. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est plutôt d'aller chercher des produits, quand on parle pas d'emballage là, mais d'autres objets en plastique, des objets qui sont durables, qui sont solides, qui sont conçus pour durer longtemps et qui sont réparables. Ça, c'est une très très bonne façon de réduire notre quantité de plastique.
Bien sûr.
Par exemple, les t-shirts, les t-shirts en polyester, les t-shirts en polyamide, c'est du plastique. Et il vaut mieux en acheter de qualité, les faire réparer quand ils ont un petit accroc plutôt que de les changer tous les deux
les
mois
jeter,
parce que la mode, voilà, exactement,
ouais.
Exactement. Donc ça, c'est évidemment des façons, les façons à privilégier. C'est quand on parle d'économie circulaire, c'est le premier R, réduire et réparer, les deux premiers R, c'est les plus importants. Et là, quand on analyse avec beaucoup de détails où sont les gains possibles en matière de pollution plastique, c'est là que l'essentiel se trouve. Mais il faut évidemment pas négliger la dernière solution qui est le recyclage. Mais en ayant toujours en tête que c'est jamais une solution parfaite.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Et nous on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Benoît Pagé.
Bonjour.
Alors vous êtes le cofondateur et le CEO de Green Big. Et vous avez conçu cette machine, la Bibot, qui est justement basée sur la consigne. Alors expliquez-nous, expliquez aux auditeurs, et d'ailleurs, comme nous sommes en radio, est-ce que vous pouvez nous décrire la Bibot pour ceux qui nous écoutent ?
Oui, alors la Bibot ressemble un peu à un distributeur, mais nous on aime bien plutôt dire que c'est un robot, d'où le nom Bibot, d'ailleurs B pour bouteille, et Bot, parce que c'est le nouveau petit nom qu'on donne souvent aux robots, et il y a là-dedans quelque chose de très innovant. Et il y a dans la Bibot quelque chose de très innovant, et donc c'est une machine qui en fait récupère tout ce qui est bouteilles plastiques qu'on consomme tous au quotidien, donc tout ce qui est eau, soda et jus. Et l'innovation vient du fait que la machine reconnaît les bouteilles et elle les transforme immédiatement, ce que nous on appelle des paillettes, qui sont une espèce de petits flocons de plastique.
Quand vous dites qu'elle reconnaît la bouteille, c'est-à-dire elle reconnaît si c'est une bouteille colorée, transparente
Oui, elle reconnaît la marque, elle reconnaît la taille, elle reconnaît la couleur, elle reconnaît plein de choses. Et effectivement, ça nous permet immédiatement de trier les bouteilles en fonction de leur couleur, ce qui est hyper intéressant parce que la matière qui notamment n'a pas de couleur, elle va pouvoir redevenir une bouteille en circuit très court dans une logique 100% économie circulaire, ce qui nous permet de réapprovisionner la filière de recyclage des bouteilles plastiques qui, et là c'est un paradoxe, manque de bouteilles recyclées pour fabriquer des bouteilles parce qu'elles ne sont pas suffisamment bien triées souvent dans les filières classiques.
D'accord. Donc il y a de la perte, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas les réutiliser.
Exactement. Et là, alors ils peuvent les réutiliser, mais il n'y en a pas suffisamment. Parce qu'en France, il y en a une sur deux qui sont recyclées. Et en fait, il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus pour répondre à la demande des industriels qui fabriquent ces bouteilles. Et nous, évidemment, on considère qu'une bouteille recyclée, elle a deux gros avantages. Un, elle ne pollue pas, parce que par définition, elle est récupérée et recyclée en bouteille. Et deux, quand vous recyclez une bouteille, ça veut dire que pour fabriquer une nouvelle bouteille, vous avez utilisé une ancienne bouteille et pas du pétrole. Donc c'est quand même beaucoup plus vertueux.
Mais alors, pourquoi est-ce que, si le problème, s'il n'y a qu'une bouteille sur deux qui est recyclée, et si c'est bien dû justement peut-être à un mauvais tri, c'est qu'il y a un problème de main-d'œuvre, ça ne peut pas être fait. Du coup, la Bibotte répond à ce problème-là en triant en amont. Comment on explique qu'il y a juste une bouteille sur deux qui peut partir en recyclage?
Alors, il y a plein, en fait, la chaîne de recyclage, c'est plein de maillons. Et à chaque fois qu'il y a une fuite dans un maillon, évidemment, ça dégrade les performances. Mais il y a un truc qui est assez évident, c'est que, évidemment, ce qui est trié à la source est éminemment plus facile à recycler parce que ça n'a jamais été remélangé avec d'autres déchets ou d'autres matières. Et donc, ça conserve, entre guillemets, une forme de pureté au gisement qui la rend plus facile à recycler. Assez logiquement, quand vous imaginez votre poubelle jaune qui, elle, intègre tout ce qui est recyclable, la deuxième étape après la poubelle jaune, c'est un camion poubelle qui, en l'occurrence, récupère cette bouteille où tous ces déchets recyclables sont un peu mélangés et les écrase les uns avec les autres. Donc typiquement, si je prends que ce maillon-là, une fois que vous avez écrasé ensemble les déchets, ils deviennent plus compliqués à trier quand ils avaient dans le centre de tri. Et donc même s'ils sont récupérés, ils peuvent finir incinérés en production d'énergie, mais c'est quand même de la matière qui est perdue dans cette logique d'économie circulaire pour redevenir une bouteille. Et voilà, un déchet compacté et mélangé avec un autre déchet, c'est plus compliqué, à trier qu'un déchet qui est immédiatement isolé dans une filière, dans une machine qui ne va pas le remélanger.
Alors, vous avez évoqué les paillettes. Pour que les auditeurs comprennent bien, c'est que vraiment, c'est broyé comme des petites paillettes, quoi.
Exactement, c'est broyé. On appelle ça en anglais des flakes. Et là, ça fait penser aux cornflakes. Et ça ressemble pas mal aux cornflakes. Donc, c'est des petites paillettes de plastique. Et le gros avantage de ça, c'est qu'en fait, dans un camion ou dans un mètre cube, on va mettre 25 fois plus de bouteilles.
Donc, en fait, on optimise le stockage, quoi, et pour le transport aussi, du coup.
Exactement. Et le transport est quand même quelque chose qui pollue beaucoup, qui coûte très cher. Et donc ça rend la filière beaucoup, beaucoup plus vertueuse parce que, évidemment, on va transporter beaucoup plus de bouteilles. Et en plus, on va sauter des étapes parce qu'évidemment, comme on passe plus par le centre de tri, etc., la bouteille va aller directement de notre machine au recycleur. Donc, elle fait moins de kilomètres. Et on met beaucoup plus de tonnes par camion. Donc voilà, beaucoup plus.
Mais la machine, elle est remplie au bout de combien de bouteilles broyées?
Alors là, la première bibotte qu'on a lancée, elle contient 3500 bouteilles, alors qu'elle fait moins d'un mètre carré. Ce qui est évidemment hyper pratique pour le magasin qui l'héberge, parce que il va la vider grand max une fois par jour, parce que déjà un magasin qui collecte 3000-3500 bouteilles par jour, c'est pas mal. Donc ça lui prend un quart d'heure par jour, c'est très peu de temps. Et ça, c'est un gros avantage par rapport à d'autres machines qui elles-mêmes compacteraient, mais qui contiennent 500 bouteilles. Donc, à quantité équivalente, il faut la vider 5, 6 fois plus souvent.
Mais alors, si par exemple, on est dans un magasin qui a énormément de bouteilles à recycler avec plein de couleurs différentes, c'est qu'à l'intérieur de la bibotte, il y a des petits compartiments fonction de la couleur de... Et on a combien de compartiments
machine,
comme 5, ça
Alors d'abord, dans la machine Bibotte, le premier truc qui est hyper tourné consommateur, c'est que la partie basse est visible. Donc les gens qui recyclent leurs bouteilles voient leurs bouteilles se faire broyer devant eux en paillettes. Et ça, c'est un côté très ludique, très pédagogique aussi, parce que les gens se disent « Ah, là évidemment, je vois bien que ma bouteille va être recyclée. » C'est hyper important qu'ils soient rassurés sur l'utilité du geste. Et en plus, effectivement, comme on prend 3500 bouteilles, ça pèse à la fin 100 kilos à peu près. Et donc, pour pas avoir à porter 100 kilos, parce que sinon c'est compliqué à manutentionner, on va avoir 5 bacs séparés qui vont se remplir au fur et à mesure, avec 4 bacs qui sont dédiés à tout ce qui est bouteilles incolores et un bac qui va être dédié à toutes les bouteilles couleurs.
Alors, vous évoquiez la pédagogie. Effectivement, elle trie pour nous cette machine, donc le verre blanc, les verres colorés. Donc, c'est aussi une façon pour nous de nous faciliter la vie. C'est-à-dire qu'on va juste déposer nos bouteilles et après, le tri est fait par la machine.
Ah oui, la machine, grâce à son intelligence, trie. Et nous, notre enjeu, c'est de faire que ça soit le plus simple et le plus rapide possible pour le consommateur. Parce que même si tout le monde a envie de faire un geste sur la planète, il ne faut pas non plus que ça devienne un effort trop grand. Et c'est vrai que là, en une minute, les gens rapportent leurs bouteilles dans le supermarché, ils les passent dans la machine, ils n'ont pas de questions à se poser. C'est hyper simple, c'est hyper rapide. Et à la fin, en plus de ça, en plus d'avoir fait un geste pour la planète, ils peuvent avoir un coupon de réduction, un bon de réduction sur leur ticket de caisse, qui n'est pas énorme, c'est 1 ou 2 centimes. Mais en fait, ça veut bien dire que cette bouteille n'est pas un déchet. Ça veut bien dire qu'elle a de la valeur. Et même si c'est qu'un ou deux centimes, à la fin, ce qui est important, c'est que c'est un geste pour la planète. Et en plus de ça, ils peuvent prolonger, parce qu'ils peuvent, au lieu de récupérer ce bon de réduction, ils peuvent en faire don à une association caritative. On est partenaire d'Océans sans plastique, qui est une association qui œuvre justement pour la préservation des océans. Et donc évidemment, non seulement on a recyclé de façon efficace une bouteille, et en plus, on a donné de l'argent à une association qui va elle-même aussi contribuer à essayer de dépolluer. Donc en fait, la bouteille est recyclée dans la bibotte, elle compte double, entre guillemets.
Oui, et puis finalement, on revient sur ce principe de la consigne hein, qui a existé pendant des années, où on avait juste à rapporter ses bouteilles, on récupérait de l'argent en retour. Et surtout, finalement, on crée ce réflexe de tri chez nous. C'est aussi une façon de nous inciter à trier. Une autre façon.
Bien sûr, c'est clairement une très bonne façon de nous inciter à trier mieux. Là où effectivement, ça ressemble à la consigne, mais c'est plus vraiment de l'incitation que de la consigne. La consigne, in fine, moi je l'ai vécu, et on payait un peu plus cher le produit parce qu'il y avait une sorte de caution sur l'emballage.
C'est vrai.
Pour le consommateur, ça coûte pas plus cher. En revanche, il est récompensé quand il rapporte sa bouteille parce que ça devient une réduction alors qu'il n'a pas payé sa bouteille plus cher. Donc c'est...
Et on a une idée du tri chez les Français, qu'en est-il ? Est-ce qu'on commence à mieux trier ou on est vraiment très en retard encore par rapport à nos voisins allemands, par exemple, qui font partie des champions du tri ?
Alors... En France, mais comme dans tous les pays où il n'y a pas de vraie consigne, on est effectivement très en retard sur les pays où il y a de la vraie consigne. Parce que la vraie consigne, vous allez payer une bouteille qui coûte 20 centimes d'euros, vous allez la payer 35 centimes, donc c'est vraiment plus cher, mais il va y avoir 15 centimes que vous récupérez quand vous rapportez l'emballage. Ça, dans tous les pays où ça existe, les performances sont incroyables, il y a 90% des bouteilles qui reviennent, ça marche excessivement bien. Et d'ailleurs, on pense que ça va revenir en France, à la fois sur la bouteille en verre qu'on a connue, mais aussi sur la bouteille plastique pour qu'elle puisse être recyclée justement et qu'on puisse la récupérer. Et les deux viennent
les
ensemble.
Les deux
sont très complémentaires. La consigne sur le verre et la consigne sur le plastique sont très complémentaires. Et c'est vrai qu'en Allemagne, il y a ça, entre autres, mais dans les pays du nord de l'Europe, il y a souvent ça. Et ça marche très bien dans tous les pays où c'est en place.
Merci beaucoup Benoît Paget. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Green Big et surtout de cette fameuse Bibot. Merci pour votre témoignage.
Merci à vous.
Bonne journée, au revoir.
Vous aussi, au revoir.
Il est l'heure de retrouver Thibaut, notre French Trotter, qui vient, je crois, tout juste de Marseille.
Le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur vous présente
Sud Radio Cessa la France avec Thibaut, le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Alors, vous avez rencontré un jeune passionné d'alcool ancien qui a créé sa propre entreprise.
C'est ça, il s'appelle Guillaume Ferroni, c'est un Marseillais, il a d'abord été barman. Il s'est rapidement passionné pour des spiritueux et des cocktails rares et souvent disparus. Il s'est même plongé dans des livres et des manuscrits d'autrefois pour recréer des recettes anciennes, je vous promets. Et tout ça lui a donné l'idée de créer, il y a une dizaine d'années, sa propre distillerie, la Maison Ferroni. Je l'ai rencontré là où il s'est installé, au château des Cressaux, à Aubagne, près de Marseille. Et il nous explique ce qu'il y fait.
Alors, c'est une distillerie, donc une fabrique de spiritueux avec trois grands axes. La première, c'est l'historique, donc on est fanatique de choses anciennes. On aime beaucoup s'appuyer sur les recettes anciennes, on remonte jusqu'au XVIIe siècle.
Sur les alcools peut-être disparus ?
Exactement, notamment les alcools disparus. Le deuxième axe, c'est le local, donc c'est la Provence et Marseille. Donc on fait beaucoup de spiritueux qui ont un attachement local, comme le pastis, comme le rhum, qui était historiquement une spécialité marseillaise, et puis d'autres produits marseillais. Et la troisième, c'est l'innovation, c'est-à-dire qu'on fait un grand écart, on fait également des produits totalement innovants, nouveaux, déformés, même des produits insolites où c'est de la pure recherche.
Alors c'est une entreprise aussi qui a une spécificité, c'est que vous ouvrez largement vos portes au public. Ça se passe comment ?
Ah oui, on a la chance déjà d'avoir un joli domaine.
Un joli domaine, voilà, on peut le dire, on est au château des Cressaux. C'est un château qui date du 19e.
C'est un château bourgeois, c'était les armateurs, quand ils faisaient fortune à Marseille, ils faisaient des châteaux dans la périphérie de Marseille. Donc c'est le cas de celui-ci, c'était un armateur qui avait fortune avec le Sénégal. Et donc on a un domaine de 7 hectares sur lequel on produit, on fait vieillir notre rhum, on cultive des plantes qu'on utilise dans les spiritueux, notamment dans le pastis. Et donc on est ouvert alors tout le temps pour la partie boutique. Et après, on fait également des visites guidées, trois fois par semaine hors saison, donc actuellement, et puis tous les jours pendant la période estivale.
Donc, si je vous mets dans la peau d'un visiteur, qu'est-ce que vous montrez ?
Alors, on montre déjà la fabrication, alors, deux grands produits surtout, le pastis et le rhum. C'est le gros de nos activités. Donc, on montre pour le pastis de A à Z, donc la culture des plantes, puisqu'on travaille à partir de plantes vertes et fraîches. Ensuite, la macération, le vieillissement, parce que notre pastis vieillit en foudre, jusqu'à la mise en bouteille. Et on a même en option un atelier pastis qu'on fait une fois par mois, où les gens font eux-mêmes leur pastis, donc on les guide dans la recette et ils partent avec une bouteille unique. Et la deuxième chose qu'on voit également, c'est le rhum. Le rhum, c'est surtout du vieillissement, donc on fait essentiellement du vieillissement. On a 300 barriques en vieillissement sur place.
Alors Thibaut, vous avez habituellement l'habitude de nous montrer des entreprises patrimoniales qui se visitent, mais finalement des entreprises un peu plus jeunes, hein, comme cette belle maison Ferroni, c'est intéressant et en plus ça se visite.
Exactement, et vous l'avez senti, hein, Guillaume Ferroni, c'est quelqu'un de passionné et cette passion, il souhaite la transmettre en ouvrant largement ses portes. Et le point d'orgue de la visite, ce sont les chais. Et je vous propose tout de suite de découvrir celui où il fait vieillir l'un de ses rhums.
Alors ça, c'est notre, on appelle le chai numéro 1, parce qu'on a plusieurs chais. Donc c'est l'historique, donc il y a une quarantaine de fûts dans celui-ci. Et c'est là qu'on a démarré à faire notre rhum ambre. Ambre, c'est le rhum qui était la réédition du style marseillais du 19e siècle. Mmh. Donc on fait un rhum qui est vieilli très différemment du rhum actuel. Donc c'est du chêne français et on fait un double vieillissement en fût de brandy et ensuite de rasto, de vin doux de rasto.
Est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs le principe de la maturation que vous faites ici ?
Oui, bien sûr. Alors donc là, la maturation, c'est le fait de prendre un rhum blanc et de l'amener jusqu'à un rhum vieux. Et donc, il y a plusieurs facteurs. Donc, naturellement, ça se fait en fût. Donc, notre outil de travail, c'est le fût. Et le fût peut amener trois différentes évolutions. D'abord, il y a le goût du bois, parce que les fûts enchaînent, le bois est toasté, donc ça donne un goût un peu caramélisé. La deuxième chose, c'est l'oxygène, parce que l'oxygène a un impact sur l'alcool, c'est-à-dire qu'il va le dégrader, il va le rancir, comme dans l'huile, mais un alcool qui rancit, c'est très bien. Et la troisième chose, c'est quand on utilise des fûts d'occasion, on va avoir également le goût du précédent contenu. Donc si on utilise un fût de Porto, on aura un petit peu un goût de Porto. Si on utilise un fût... Exactement.
Comment fait-on pour visiter à notre tour cette entreprise, Thibaut ?
Il faut réserver sur ferroni.com. Les visites se font par groupe de 12 personnes. Il faut savoir qu'elles sont généralistes pendant l'année. Et puis l'été, il y a des visites à thème. Et vous pourrez faire votre propre pastis, évidemment, dans le cadre d'ateliers spécialisés.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter.
Vous a été présenté par le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Merci beaucoup Thibaut et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous chers auditeurs. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et d'ici là, surtout, portez-vous bien.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté
Sud Radio, c'est ça la France.